Je vais vous parler donc de l'écriture politiquement transgressive de Virginie Despentes et donc du manifeste féministe King Kong Theory. Les réflexions autour de la sexualité féminine restent taboues dans le champ de la littérature française. Le féminin étant un espace souvent contrôlé par des représentations et surtout des auteurs qui n'ont pas toujours vécu dans leur chair les expériences citées et se contentent de se servir de la peau des autres pour vendre du papier. En 2006, l'auteur française Virginie Despentes écrit King Kong Theory aux éditions Grasset, un essai de 145 pages articulé en 7 chapitres qui réfute les discours moralisateurs et la place dont les femmes disposent dans le champ des représentations médiatiques et littéraires. Les thématiques dont elle s'empare sont radicales : viol, pornographie, prostitution. Il s'agit d'une acerbe critique sociale et politique qui lui permet de démolir symboliquement le système en focalisant son propos sur la place que les femmes conquièrent en dehors des schémas que le patriarcat leur impose. Déjà, à travers son œuvre romanesque, Despentes campait ses héroïnes de la même façon que la littérature occidentale représente ses héros, tant sur le plan de la brutalité que des comportements dits explicites, revoyant ainsi sa propre définition du féminin. Des ouvrages comme « Baise-moi », « Les chiennes savantes », « Les jolies choses », « Mordre au travers », « Teen Spirit », où pornographie, prostitution et violence sexuelle sont au cœur de ses écrits et questionnent un quotidien urbain en déliquescence morale et sociétale où les héroïnes sont toujours plus viriles les unes que les autres et flirtent souvent, comme dans son dernier roman série Vernon Subutex, avec la précarité et la dureté de la vie qui lui est associée. Ces récits sont des contes urbains dans lesquels Despentes se situe toujours du côté des femmes, proposant des histoires sombres et brutales, témoignages d'un monde actuel rarement mis en valeur. Mais avec King Kong Theory, Despentes pose une solide prise de position féministe, en y ajoutant une coloration autobiographique où elle regarde les choses de l'intérieur, c'est-à-dire de son point de vue de vie de femme sociale, non, son point de vie sociale de femme, pardon, et en particulier une femme qui a été confrontée physiquement à tout ce qu'elle dénonce. C'est donc depuis sa chair, sa souffrance, ses peines, mais également depuis sa propre construction et ses propres choix que l'auteur nous offre un regard sur le monde, le témoignage d'une féminité jamais représentée dans les médias. Son propos vise également à rendre, à sa façon, une certaine dignité aux femmes les moins prises au sérieux, autant par les médias que par les féministes elles-mêmes, que sont les travailleuses du sexe, escortes, stripteaseuses et hardeuses, les punks au physique ingrat et médiocre, je cite, les lesbiennes ou celles qui ne veulent pas d'enfants. Elle dira, page 10, « On a toujours existé, on n'a jamais parlé. » Comment, à travers ce texte, l'auteur de Baise-moi replace le concept de chair au centre de son essai, renversant les enjeux de domination imposés par le système et de ce fait offre un féminisme libérateur. L'ouvrage commence de manière fièrement négative, rendant au sombre, au modeste et à l'insignifiant sa place dans le monde, ou du moins un monde qui le jugerait ainsi. « J'écris de chez les moches », commence-t-elle, en dressant une liste de clichés assignés aux femmes qui ne rentrent pas dans la case de la littérature occidentale. Mais son propos est surtout de défendre les différentes manières d'exister au sein de l'enveloppe charnelle assignée au féminin. Vieille, camionneuse, frigide, tarée ou encore hystérique, constitue entre autres l'éventail des représentations dont elle se fait l'avocate. Elle parle également des représentations masculines, de ces hommes timides, craintifs, vulnérables, ni bien membrés, ni agressifs. Mais derrière ces caractéristiques physiques et comportementales hors normes et perçues comme négatives, elle vise à soulager toute une génération de femmes et d'hommes jamais représentés, ni pris en compte dans l'éducation, mais bel et bien conscients et conscientes de leur puissance. Ainsi, elle appuie sa place sociale en précisant « C'est d'ici que j'écris. Dès l'introduction, cette précision assoit sa position frontalement face à la norme, en confrontation avec le pouvoir extérieur qui la juge comme telle, une société hétéronormative et sexiste. Mais cette stratégie replie également tout aussi vite son propos, vers un point de vue tabou, caché, vu de l'intérieur, qu'elle ouvre sans aucun complexe, avec même une certaine fierté de ne pas appartenir et plaire à cette norme si aliénante. Ainsi, face à cette double lecture, à la fois brutale et fragile, l'ouvrage se place non pas contre un système, mais bien pour une marge, avec un discours rendu vivant par une spontanéité littéraire, le tout en vue d'un projet social et politique, celui de donner foi en ses maladresses, ses fautes, ses souffrances, ses choix précipités, ses vices et son mauvais goût, sans les catégoriser ainsi, mais plutôt en prenant appui sur ses caractéristiques pour être, tout simplement, et arrêter de nier ce qui existe, chez elle comme chez d'autres, ce qui constitue la base solide d'une personnalité puissante. Elle dira, page 20, « On est embarrassé de nos puissances ». Pour ce faire, elle compare féminité et virilité, en déconstruisant ces deux formes d'oppression envers les deux genres. Elle dit, page 11, « Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. Ici, les choses les moins contraignantes et les plus marrantes sont viriles, donc associées socialement au masculin. Mais boire, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec tout le monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril. Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui me permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril. Toutes ces caractéristiques attribuées à l'homme sont les principaux traits de ces héroïnes. Elles ne sont pas viriles par mimétisme, pour surenchérir avec l'homme et ainsi répéter du déjà-vu comme ont pu déjà l'affirmer certaines critiques féministes sur son œuvre. Elles revendiquent un espace de neutralité. Être viril, c'est être naturel dans la société qui a créé les règles, tandis que la féminité s'impose comme étant un artifice où talons hauts et discrétion empêchent de libérer sa propre puissance. Là où les femmes font attention à leur physique et se font critiquer au moindre mouvement, l'homme, lui, n'a pas de corps, dira-t-elle. Cependant, en devenant putain, elle rencontre une part de sa féminité extrême et déconstruit la vision binaire de l'homme conquérant et de la femme soumise à ce modèle. Leur gros bide, petite bite, fesses flasques ou dents trop jaunes. Cependant, c'était leur fragilité qui rendait le truc compliqué. Ceux qu'on pouvait mépriser ou haïr, finalement, étaient ceux avec qui on pouvait le faire en restant bien fermé. Les clients étaient lourds d'humanité, de fragilité, de détresse. Ici, l'oppresseur se change en humain, et cette humanité, elle la connaît bien, puisque c'est elle qu'elle revendique dès le début de l'ouvrage, pour elle-même et pour ses sœurs. Par des exemples d'attitudes « loseuses », comme elle les appelle, elle soulignera sa propre capacité à faire face aux difficultés imposées par l'éducation. En parlant de son viol, elle dira par exemple « c'est ce qui me défigure et c'est ce qui me constitue ». Faisant de son expérience passée un savoir sur le monde, sur elle-même, une référence en matière de construction sociale. Ces épreuves lui ont permis de créer et d'être ce qu'elle est aujourd'hui, puisque, je cite, « être Virginie Despentes lui semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire ». À travers l'amour-propre de son parcours, elle peut affirmer et faire savoir que ce sont les difficultés qu'elle a surmontées qui lui ont apporté le plus, laissant sous-entendre dès le départ que ce livre a pour but de soulager celles et ceux qui le lisent. Ainsi, à la page 10, « Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la simple et bonne raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. » Ou encore, à la page 19, elle confiera « J'ai fait du stop, j'ai été violée, j'ai refait du stop. » Face à cette insolence qui pose clairement ses faiblesses et ses erreurs avant toute réflexion, elle fait preuve d'un profond lâcher-prise et d'une certaine franchise qui impose son discours féministe comme emprunt d'humilité. L'humilité, souvent vulgarisée à travers les discours spirituels et religieux, trouve ici une définition propre à son origine. En effet, l'humilité a pour source étymologique l'humus, la terre. Par extension est humain, celui ou celle qui vient de la terre, puisque humus a donné humain. Mais celle ou celui qui fait preuve d'humilité est une personne qui est capable de se voir bon ou comme mauvais, avec toute la simplicité et la vérité que son être éprouve au moment où il le vit. Il renverse l'humilité religieuse qui conduit à la culpabilité ou à la mortification, afin d'axer son discours sur le libre arbitre des personnes marginalisées et ainsi casser avec la tradition féministe mainstream qui voudrait que les femmes soient au-dessus de ce que la représentation masculine en a fait, c'est-à-dire qui associe féminité à féminisme. Finalement, elle redonne au féminin la part humaine qui lui a été confisquée, le droit d'être aussi mauvaise qu'un homme, tant sur le plan du physique que du moral, puisque les genres ne sont, comme l'a déjà soulevé Judith Butler, que mascarades et performances. Ce n'est donc pas du corps dont il s'agit chez Virginie Despentes, mais bien de la chair. Cette matière sensible qui nous permet de sentir le monde et d'être ce que nous sommes, cette partie de nous indomptable par l'État ou la civilisation, sauf peut-être par la médecine et ses chimies anesthésiantes. Cette chair qui nous permet de savoir, non pas ce que nous voulons, mais ce que nous ne voulons pas ou ce que nous ne voulons plus pour nous-mêmes. La chair, en grec, sarx, désigne d'abord la matière molle qui constitue le corps. Mais elle est aussi le corps vécu, vivant, sensible. La chair est notre enveloppe, se sentant elle-même de manière immédiate et subjective. Là où le corps n'a pas les mêmes références et définitions, suivant les époques ou suivant les classes sociales, la chair est, elle, est la même pour toutes et pour tous. Puisqu'elle ne peut avoir de classification, elle se vit pendant que nous parlons. Elle éprouve, et ce, peu importe d'où nous venons. La différence entre le corps et la chair est bel et bien marquée. Le corps est social, politique, conceptualisé. La chair, elle, est vécue, expérimentée, plus que jamais ici et maintenant. Le corps est étranger à nous-mêmes, la chair, elle, définitivement nous. Elle invite à se voir et se sentir comme faisant partie du monde, en chair et en os, au plus près de soi, physiquement palpable. La chair porte le poids du savoir, de la connaissance de soi. Elle informe sur l'identité de celui ou de celle qui l'endure. Elle est un parchemin qui nous permet de nommer, comprendre et d'exprimer l'être qui l'écoute et la vit. Mais comme le souligne Michel Henry dans son ouvrage « L'incarnation, une philosophie de la chair », l'élucidation de la chair rencontre nécessairement la proclamation fondamentale de l'évangile de Saint Jean, qui dit que le Verbe s'est fait chair, et ainsi la chair nous renvoie à toute l'histoire de l'Occident, qui ne l'a jamais portée dans son estime, ni à travers la religion, ni par la philosophie. La société judéo-chrétienne a toujours pensé l'esprit au-dessus d'elle, la qualifiant et la reléguant au rang de faiblesse. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Être faible dans une société hétéronormative, c'est être en dessous, en bas, dans le noir, le féminin, l'animal et le laisser pour compte. C'est ne pas avoir la valeur du conquérant. Il est important de souligner que l'idéologie des romans de Virginie Despentes, en récusant les symboles de domination, met en évidence l'appartenance de son auteur à la mouvance punk. Mouvance qui lui a sauvé la vie à bien des égards. Je ne suis pas douce, pas aimable, je ne suis pas une bourge. J'ai des montées d'hormones qui me font des fulgurances d'agressivité. Si je ne venais pas du punk rock, j'aurais honte de ce que je suis. Le punk a cette volonté première de ne pas être conquérant, de s'opposer clairement au modèle établi pour déconstruire l'éducation et ses hiérarchies. La sous-culture punk a d'abord été un phénomène réactionnaire qui a remis en question la vision du monde véhiculée au nom de la culture, au profit d'une seule classe bourgeoise. Pour le sociologue Dick Hebdige, certains groupes sociaux ont plus d'influence, plus d'opportunités de dicter les règles et d'organiser le sens, tandis que d'autres occupent une position moins favorable et ne disposent pas à un même degré du pouvoir de produire et d'imposer leur définition du monde. Le projet politique, inspiré par la communauté anticonformiste punk, détourne les symboles et les expressions de l'oppression pour la combattre. Les gestes et toutes les formes d'expression ont un sens dans une communauté subalterne, et Despentes ne prive pas son style littéraire de ces signes, qui symbolisent avant tout le rejet des codes de la pensée dominante dirigée par les hommes et la bourgeoisie en France. Pour ce faire, elle utilise le verlan, ce sociolecte ici des milieux ouvriers et immigrés des banlieues parisiennes, qui consiste à inverser les symboles des mots pour décrypter le message, pour crypter le message, pardon. Le terme femme devient meuf, flic devient keuf. Elle utilise également l'argot, des phrases courtes et incisives, sans verbe ni complément, mais aussi des tournures de phrases familières tirées de l'oral, qui donnent à son texte un ancrage dans le réel, une position de proximité avec la lectrice et le lecteur. Son vocabulaire est familier, frontal. On dirait qu'ils veulent se voir baiser, se regarder la bite les uns les autres, être ensemble en train de bander. On dirait qu'ils ont envie de se la mettre. On dirait qu'ils ont peur de s'avouer que ce dont ils ont vraiment envie, c'est de baiser les uns avec les autres. Les hommes aiment les hommes. Le fait de donner à ces personnages de roman une place dans la diégèse en conformité avec ce qu'elle pourrait être dans le monde réel, en s'inspirant de sa propre expérience, comme en témoigne Quiconque Théorie, renforce son discours punk. Mais Despentes se positionne dans un double engagement radical, à la fois du côté des actrices punk de la scène des années 80, tout comme du côté des féministes pro-sexe, comme elle le souligne à travers son documentaire « Mutante », la suite, entre guillemets, de King Kong Theory, sorti en 2009. En ne calquant son identité sur personne d'autre que d'elle-même, comme le veut l'idéologie punk, Despentes ne parle à la place de personne, sinon depuis sa propre chair, sa propre sensibilité, sa propre expérience. Ces personnages, travailleuses du sexe, dans ses romans en témoignent, et son autobiographie dans King Kong Theory le confirme. Elle connaît son sujet, puisqu'elle a été elle-même stripteaseuse en pipe show et elle s'est prostituée. En parlant d'elle-même, elle nous renvoie à repenser le corps non plus du côté du patriarcat, du concept et de l'extérieur, mais bien du côté de l'intérieur, là où l'être ressent, pleure, rigole, aime, déteste ou souffre, c'est-à-dire du côté de cette chair. Une pensée est toujours connectée à sa vérité charnelle, qu'elle accepte, aime, déteste ou rejette cette même enveloppe. La pensée se forme dans l'antre de la chair et se construit en fonction de ce qu'elle lui offre à sentir. C'est peut-être ça, le dégoût qu'elle a suscité. En tout cas, que la chair a suscité jusqu'ici. Confrontant l'humain à ses émotions, la pensée judéo-chrétienne a préféré la haïr car elle ne rappelle combien la défaite fait partie du jeu. Un conquérant ne doit pas prendre de risques. Accueillir ses émotions est un danger pour l'intellect. Les sentiments risquent de livrer le sujet à un abandon et à une possible identité décrédibilisée. Mais les sentiments à vif, pour la punkette pratiquante qui se fout de sa pureté de femme bien, comme elle le dit, a permis à l'auteur de choisir la création visuelle et la littérature plutôt que le silence, et ainsi donner à sa chair et à ses émotions toute la place qu'elle mérite, dans le champ des représentations médiatiques dites masculines. Vouloir être un homme, je vaux mieux que ça. Je m'en fous du pénis, je m'en fous de la barbe et de la testostérone. J'ai tout ce qu'il me faut en agressivité et en courage. Je ne veux pas qu'on me fasse taire, je ne veux pas qu'on m'explique ce que je peux faire. Je ne veux pas qu'on m'ouvre les chairs pour me faire gonfler la poitrine. Si l'homme et son héritage judéo-chrétien représentent le modèle cartésien, préférant l'esprit à la chair, le paradis à la terre, l'intellect à la matière, le modèle féminin, dans cette logique binaire, renvoie à son opposé et est considéré de ce fait comme la chair à vaincre en soi, au sein du monde, mais également au sein de sa propre vie. Dans la chute d'Adam et Ève, du paradis de la Genèse, les femmes ont enduré une chute littérale de leur considération en tant qu'être humain et restent encore aujourd'hui la cible première de tous les conflits politiques. L'image du féminin renvoie à cette crainte-là, celle d'être incarnée et de vivre, puisque c'est par ce même corps que la vie prend forme pour une société traditionnelle et essentialiste. C'est par ce biais-là que l'être humain vient du monde, et donc dans les esprits, la chair amène la vie autant que la mort. S'agit-il pour autant de remettre en question et de redéfinir les valeurs associées au féminin, que sont le sombre, l'inconscient, l'animal, l'intériorité, l'autre ou la chair? Non, il semble que non. La part sauvage de l'être est justement le propos de cet ouvrage. « Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. » Cette citation exprime bien que c'est la sauvagerie, son côté animal, que l'auteur souhaite rendre hommage à travers ces pages, louant ainsi l'évidence qu'on est plus proche de sa nature. Que plus on est proche de sa nature, plus on est en accord avec soi-même, et ce, même si toute la société dans laquelle on évolue s'y oppose. Être soi commence par accepter sa part sauvage, non domestiquée par l'homme. Accepter que ce qui représente un danger pour la culture, une transgression des limites établies, peut être en réalité une avancée, une révolution. La valeur accordée à la chair va directement à l'encontre de ce que la société occidentale s'est acharnée à vouloir faire. Séparer les ambivalences et créer un espace vide entre culture et nature, féminin, masculin, esprit et chair. En effet, affirmer ses désirs, ses émotions et ses ressentis en les mettant en lumière permet de redéfinir les aspects négatifs en des polarités indissociables de leur contraire. De cette manière, il est possible de voir que c'est au sujet de changer leur regard sur la réalité et non pas à la réalité à s'adapter aux dogmes et aux visions malades de l'Occident. Pour le dire avec les mots de l'auteur et militante Starhawk, la souffrance de ceux d'entre nous qui sont jugés autres, les pauvres, les classes ouvrières, les lesbiennes et les homosexuels, les handicapés, ceux qui ont été étiquetés malades mentaux, l'arc-en-ciel des différentes races, religions et héritages ethniques, toutes les femmes, mais surtout celles qui ne rentrent pas dans les rôles culturellement définis, n'est pas la souffrance d'une simple discrimination, mais celle d'une négation répétée sans cesse. Ça s'est tiré de son ouvrage Révèle obscur, Femmes, magie et politique. Ainsi, cette négation perpétuée au fil de temps pousse à décrédibiliser ce qui est révélateur de soi-même et des particularités de chaque individu. La chair offre à être soi, à se découvrir, s'ouvrir et se partager, mais elle bouscule l'ordre, car dans son expression d'elle-même, elle se veut multiple. Multiple dans ses manières, multiple dans l'ensemble des chairs qui constituent ce monde, et de ce fait casse la binarité et le manichéisme occidental. La chair porte avec elle le poids de l'humanité. Et c'est justement la clé de l'ouvrage de Virginie Despentes. Elle revendique le poids de l'humanité, non pas par la maternité, comme le modèle occidental le veut pour les femmes, modèle d'ailleurs qu'elle remet en question de façon ouverte sur 4 pages en le comparant au pouvoir asservissant de l'État-mère. mais par la vie vécue au sens charnel. Le poids d'être jeté au monde et de devoir débattre avec la matière à laquelle nous sommes confrontés, le poids d'être confronté à ses faiblesses et le poids de renverser ses aspects culturellement négatifs en des forces intrinsèquement liées à sa propre nature. La maturité de l'ouvrage ici se situe dans la génération du sacrifice de soi. Despentes le confirme, se raconter était nécessaire pour élaborer son propos. Ici, le témoignage prend la forme d'un don, d'un partage, d'un cadeau, pour avancer sur une meilleure route, dit-elle, page 145, et en tirant profit de la stigmatisation. Cette transgression, dont elle use et abuse pour sortir des clichés, s'apparente à une pulsion de vie dans une société qui préfère voir les femmes mortes. La beauté cadavérique de certaines féminités médiatisées en témoigne, et la proximité de la mort dont elle a déjà fait la douloureuse expérience à travers le viol permet d'insister sur les recommandations dont elle fait usage pour inviter à vivre pleinement. Finalement, il est possible de conclure que la vraie transgression au sein d'un système hostile, c'est la bienveillance. C'est extraordinaire qu'entre femmes, on ne dise rien aux jeunes filles, pas le moindre passage de savoir, de consignes de survie, de conseils pratiques simples, rien, puisque c'est là que germent les révoltes.
Bravo. Donc on va passer à la...